terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Adi Yassine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre
merci
invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Hein, c'est vraiment...
C'est très touchant.
Alors, quand on a annoncé ta venue, donc on a intitulé, journaliste, chef d'antenne...
Depuis
trois semaines de TV à 18h. D'abord, ça mérite...
Merci,
une
très gentil.
Une grande main d'applaudissements. Et puis, il y a eu cette question. Ok, chef d'antenne, journaliste et tout, mais qui est Adi Yassine?
Très bonne et grande question. Mm-hmm. Je suis le quatrième enfant d'une famille de quatre enfants. Mm-hmm. J'ai deux grands frères, une grande sœur. J'ai grandi à Montréal.
Donc le dernier de la famille.
Le dernier de la famille.
Okay.
J'ai grandi à Montréal-Nord, mm-hmm. Né d'un père irakien, né d'une mère libanaise. J'ai fait l'école publique. J'ai rêvé de faire l'école privée. Mais je suis le fils d'un père qui a toute sa vie travaillé très fort pour avoir le plus de moyens pour moi, mm-hmm. mais qui ne pouvait pas m'envoyer à l'école privée. Donc j'ai fait l'école publique, mais j'ai été très encadré par des parents qui voulaient absolument que je réussisse et que je réalise mes rêves. On est pratiquement 15 ans après la fin de mon école secondaire, donc j'ai 29 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'ai atteint un certain rêve il n'y a pas très longtemps en étant nommé chef d'antenne.
Chef d'antenne. Alors, on va rembobiner tout ça.
Oui.
Parce que aujourd'hui, oui, chef d'antenne, tu es journaliste.
Exactement.
À quel moment le rêve, tu le choisis? À quel moment tu rêves d'être journaliste?
Au départ, je voulais être comédien.
Okay.
Je voulais faire l'école de théâtre, le conservatoire. Quand on est issu parfois d'une famille où les objectifs de nos parents ne sont pas les nôtres, mm-hmm. Ça peut être plus difficile de convaincre un parent de vouloir s'inscrire à l'école de théâtre. Mon père m'avait dit « Je voudrais absolument que tu aies l'université en premier et ensuite tu feras le métier de tes rêves. » Je me suis inscrit en communication à l'UQAM, un peu sur un coup de tête.
Okay.
Parce que je me disais, c'est un entre-deux entre « j'aime m'informer » et « j'aime... » interpréter. Mm-hmm. Je me voyais un petit peu faire de la télé, c'était pas mon premier but, mais je me disais c'est le meilleur entre deux possibles, les communications. J'ai fait mon bac. Et c'est au cours de ma formation universitaire que j'ai fait « j'aime profondément ce que je fais ».
Okay.
Et là, se sont présentées les occasions en radio, en télé, et éventuellement, j'ai réalisé que j'avais exactement ce que je voulais, que j'étais sur mon X. Mm-hmm. Y a des gens qui peuvent chercher très longtemps. Moi, je l'ai compris en cours de route. C'est-à-dire qu'après mon premier cours de télé, j'ai fait « ok, je veux faire de la télé
mm-hmm. ». Adi, le grand public t'a connu à Radio-Canada, Radio-Canada, RDI, où tu étais un journaliste de terrain. Tu as choisi la télévision, pourquoi?
Ben, au départ, à Radio-Canada, on est des journalistes multiplateformes. Mm-hmm. Hein. On demande de faire de la télé, de la radio, de l'écrit. Moi, j'ai touché aux trois. Il y a un patron qui a vu que j'avais davantage de force en télé. Il m'a imposé, pas imposé, mais il m'a invité à poursuivre sur cette lancée-là. Éventuellement, j'ai eu une permanence en télé à RDI à Québec. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est que tous les matins, j'étais en onde dès 5h30 jusqu'à midi, à raison de 5 à 6 fois par semaine. Donc, tu finis par prendre un peu, à développer des réflexes, des façons de communiquer plus rapidement, d'intégrer l'information plus rapidement. J'ai réussi à si bien performer, très humblement, que éventuellement, mes patrons m'ont dit « reviens à Montréal, mm-hmm. à Radio-Canada à Montréal, il y a de la place pour toi ». Et c'est là que j'ai continué à parfaire mon apprentissage comme journaliste télé. La télé, c'est un peu imposé malgré moi. J'ai pas revendiqué le besoin de faire de la télé. Moi, je voulais faire de l'information, je voulais travailler, je voulais gagner ma vie. Mais quand tu réussis à t'en tirer plutôt bien dans un médium, ben tu restes là. Mmh. C'est ce qui t'est arrivé.
Est-ce qu'aujourd'hui, oui, tu dis que tu vis un rêve, mais tu rêvais aussi d'être comédienne. Est-ce que tu regrettes ton choix aujourd'hui?
Non. Non, j'ai encore plusieurs rêves. Mm-hmm. On n'atteint pas tous ces rêves. Parfois, on les reconstruit. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai d'autres objectifs que je vais les atteindre. Quand on en atteint un, évidemment, on remercie la vie. C'est un cadeau de la vie, ce que je fais aujourd'hui. J'en ai d'autres. Si je les atteins, tant mieux. Si je réussis pas à les atteindre, ben, c'est pas tant pis, là. C'est juste que il y a d'autres personnes qui ont des aspirations, des rêves. Moi, quand je suis nommé chef d'antenne, j'ai d'autres collègues qui, j'imagine, l'auraient souhaité aussi.
Oui, bien sûr.
Qui n'ont pas pu avoir cette occasion-là, ce privilège à réaliser. Donc, je dois accepter que des fois, certains de mes rêves, je les atteigne et d'autres non. Comme j'aurais voulu être comédien. Je n'ai pas pu finalement devenir comédien. Mais c'est pas le drame de ma vie. Là. Si je devais retourner en arrière complètement, je pense que je ne retournerais pas à l'école de théâtre. J'essaierais pas de rentrer à l'école de théâtre parce que je suis convaincu que je fais le bon métier aujourd'hui.
Adi, tu es le premier néo-québécois d'origine arabe à être chef d'antenne.
C'est ce que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu le réalises?
Je l'ai réalisé il y a quelques semaines.
Pourquoi? Parce qu'on te le disait?
On me l'a fait remarquer.
On te le fait remarquer.
C'est mon frère qui me l'a fait remarquer.
Oui.
Il m'a dit, j'espère que tu es conscient, que tu es très chanceux. Puis je lui ai dit, oui, tu as totalement raison. J'arrive au bon moment, à une époque où les salles de nouvelles ont une volonté d'intégrer de la diversité. J'arrive au moment aussi où il y a une pénurie d'employés, ce qui fait que...
Même dans le journalisme?
Ben, il y a aussi moins de moyens.
Okay.
Il y a moins d'effectifs, il y a moins de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur qualité de vie pour travailler des heures et des heures. J'arrive aussi à un moment où je tombe sur le bon patron, qui a la bonne vision pour moi, qui me rend compte, qui me dit ce que moi j'ai envie d'entendre, puis je lui pose des questions, puis j'ai des réponses très sincères. Tu sais, c'est vraiment... Je suis tombé au bon moment, au bon endroit, puis oui, je le réalise que je suis le premier. Je suis convaincu que je ne serai pas le dernier. Je l'attribue pas seulement à mes origines. C'est-à-dire que j'ai quand même fait un bac en journalisme, j'ai fait des stages, j'ai été recherchiste, j'ai été coordonnateur dans des émissions de télé, j'ai travaillé très fort pour me rendre jusque-là. Ensuite, oui, je m'estime très chanceux.
Parce qu'on parle aujourd'hui de TVA, où tu es chef d'antenne, des journaux de fin de semaine. Mais oui, il y a eu RDI Radio-Canada avant, mais tu as quand même fréquenté quelques salles, quelques médias.
Ouais.
J'ai cru voir le 98.5.
J'ai fait la recherche pour eux.
Voilà.
J'ai été recherchiste à la radio pour un chroniqueur dans une émission de Paul Arcand. Donc c'était tous les matins, je préparais des dossiers de recherche. J'ai travaillé au Huffington Post Québec, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour lequel j'ai énormément écrit de textes, de chroniques, de critiques, de spectacles, de théâtre, du fait divers. J'ai vraiment fait mes classes au Huffington Post Québec avec Patrick White. J'ai travaillé à TVA il y a plusieurs années avant de quitter TVA. Ouais, pour aller à Radio-Canada, pour revenir à TVA par après. Mais j'étais coordonnateur dans une émission de télé. Donc, je planifiais des tournages. Et j'ai vraiment touché à tout. J'ai rencontré des gens qui avaient... J'ai rencontré toutes sortes de métiers, là. Et ça m'a permis encore plus de comprendre que moi, c'était vraiment le journalisme traditionnel qui m'intéressait.
Même si... allez, on va travailler nos petites conversations avant le début de l'émission. La radio, t'as pas vraiment aimé la radio.
Ben, j'ai toujours trouvé ça plus difficile, la radio. C'est-à-dire que quand j'en ai fait, je me réécoutais par après et je me disais... Ah, je me reconnais plus ou moins, c'est pas ma voix, c'est pas mon timbre, c'est pas mon ton. J'écoutais mes collègues que je trouvais tellement plus authentiques, plus vrais, plus pertinents. C'est-à-dire que moi, en télé, j'ai réussi à apprécier ce que j'étais pour me dire « je continue là-dedans ». En radio, j'ai jamais réussi à aimer ce que j'entendais. C'est pour ça que des fois, le micro m'effrayait beaucoup plus que la caméra m'effrayait.
Que la caméra, tout à fait. Alors... Je l'ai dit, c'est à Québec, RDI, qu'on te voit à l'antenne, en reportage. Puis, il y a cette annonce-là que nous étions très heureux de faire, où tu traverses et puis tu vas à TVA. Mais revenons sur le terrain. Qu'est-ce que tu aimais sur le terrain? Parce que tu as fait 5 ans de reportage à Radio-Canada.
Ben, on vit tellement de choses sur le terrain. Des choses qu'on ne vivrait jamais si on n'était pas déployé aussi souvent, tous les jours. Ça devient... Honnêtement, c'est encore pas devenu banal pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive dans des moments parfois tragiques. On rentre dans la vie des gens dans les pires moments de leur vie. On rencontre des gens qui vivent parfois des drames, parfois les plus belles journées de leur vie. Et on a cet accès-là, ce privilège de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut et de relayer ensuite ce qu'on apprend. C'est-à-dire que moi, quand je suis déployé sur un événement, drame humain, peu importe, je rencontre des gens qui sont bouleversés par la vie et ces gens-là me font confiance, se confient à moi et je découvre un côté de l'être humain que je n'aurais jamais pu découvrir avant. Je me suis parfois même lié d'amitié avec des gens qui avaient perdu leurs enfants dans des drames, puis ces gens-là m'ont transformé. On ne réalise pas à quel point on est chanceux de rencontrer ces gens-là tant qu'on les a pas rencontrés. Je pense à un homme en particulier qui, lui, à Québec, sa femme a été assassinée le soir de l'Halloween, le 31 octobre, il y a quelques années, par un homme habillé en chevalier, peu importe, c'est une histoire qui avait vraiment marqué tout le monde. J'ai rencontré l'époux de cette femme, qui est devenu aujourd'hui un ami, et à qui je parle régulièrement. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de points en commun, et il y a quand même une cinquantaine d'années qui nous séparent. Jacques était anciennement animateur de radio, il a fait le métier que je fais aujourd'hui, et un jour j'apprends que c'est Jacques qui a perdu sa femme ce soir-là, le 31 octobre. J'aurais pas pu rencontrer cet homme si ce n'était pas de mon travail. D'autres fois, c'est des super bonnes nouvelles, des belles nouvelles. T'sais, on a accès à des lieux... avoir accès à une base militaire, c'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. Quand on est affecté sur une base militaire pour rencontrer des hauts placés de l'armée, pour un jeune homme comme moi qui avait une passion pour la police, l'armée, c'est fascinant.
Alors, on va dire quoi, ton transfert, ton changement, les passionnés de football parlent de mercato. Tu quittes RDI pour aller à TVA. Je n'ai pas besoin de te rappeler que ça fait jaser comme on dit.
Autant en bien comme en mal.
Hein,
mais auprès de mes collègues à Radio-Canada, autant auprès de mes nouveaux collègues à TVA, la question m'a été posée par plusieurs personnes.
Je vais la reposer.
Reposez-moi là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis, Adi, parce que en faisant quelques recherches quand même dans l'optique de ta venue ici, tu es quelqu'un qui aime le service public.
Énormément.
Voilà.
Et j'y étais très, très bien.
Très bien. Tu es à ce poste-là. Tu fais du reportage. On te voit. Bon, j'oublie le côté, qu'on le veuille ou pas, tous tels que nous sommes les personnes racisées, dès qu'on occupe certains postes, on attire le regard. Mais dans ton cas, professionnellement parlant, tu es à RDI, ça se passe très bien. Et là, tu bouges, puis tu vas à TVA. Et surtout qu'on annonce que tu vas faire du terrain.
Exactement.
À TVA. Qu'est-ce qui s'est passé?
À ce moment-là, quand je quitte Radio-Canada, il n'est pas question que je devienne animateur ou chef d'antenne. Okay. Ce n'est pas dans les plans de qui que ce soit.
Okay.
J'étais très heureux à Radio-Canada. On m'a donné beaucoup d'opportunités et j'ai quitté l'entreprise en très, très bons termes. J'avais le sentiment que je commençais lentement à plafonner, que je pourrais devenir un journaliste parmi tant d'autres dans la salle de nouvelles. Parce que Radio-Canada, c'est une entreprise qui a davantage de moyens que les entreprises privées. Et conséquence de cela, il y a beaucoup de journalistes. Et parfois, j'avais l'impression de moins contribuer à la salle de nouvelles. Ce sentiment-là commençait à peser lourd sur mes épaules. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où j'avais l'impression d'être déployé tous les jours sur des grands sujets et d'être très utile. Il y a des semaines, c'était moins le cas. C'est pas un reproche que je fais à l'entreprise, elle est comme ça l'entreprise. Il y a plus d'employés, il y a plus de journalistes, il y a plus de reporters terrain. Contrairement à Radio-Canada Québec, qui est encore la même entreprise, où il y a moins de journalistes. Et donc, quand j'étais à Radio-Canada Québec, j'avais l'impression d'être plus souvent déployé, plus souvent de contribuer au bulletin de nouvelles, ce qui n'a pas été autant le cas à Montréal. Et comme je l'ai dit à mes anciens patrons à Radio-Canada, C'est pas contre vous, c'est rien contre vous. Je le savais que ce serait comme ça en arrivant à Montréal. Et je savais qu'à TVA, c'était le contraire. Moins d'effectifs, moins de moyens. Donc, des journalistes sont appelés à travailler trois fois plus.
Est-ce que plus ouvert à la diversité?
Il y a une volonté. Je veux dire qu'il y a une volonté. À Radio-Canada, elle est très présente, cette volonté. C'est-à-dire qu'on l'entend pratiquement tous les jours. On nous en parle, il y a des comités... Il y a des personnes qui ont été nommées aussi pour en faire la promotion. Parfois même, ça crée un certain malaise chez des candidats de la diversité parce qu'on se demande...
S'ils sont là pour leurs compétences
exactement.
Ou plus pour...
Est-ce que c'est une image en surface? Est-ce qu'il y a une volonté qui est sincère en arrière? Je vais vous répondre que oui, parce que pour avoir discuté avec des patrons qui étaient là à l'époque, j'ai toujours senti qu'ils étaient très sincères. J'en suis la preuve. Ils m'ont donné beaucoup d'opportunités. Et j'en suis ressorti très gagnant. Quand TVA m'a contacté, j'ai pas senti qu'il me contactait sur la base de que je suis issu de la diversité.
Oui, exactement. Mm-hmm.
Il savait que j'étais quelqu'un qui aimait performer, quelqu'un qui aimait que ça aille très vite. Et étant donné qu'on voyait souvent la télé, le gros avantage de la télé, c'est qu'on te voit, on te remarque, on te connaît, il y a une notoriété par rapport à ça. Étant donné que je commençais à devenir connu, ben ils m'ont contacté. Et pour moi, l'occasion était là de ne plus plafonner, si je peux le dire comme ça.
Okay.
J'ai des collègues qui sont à Radio-Can aujourd'hui et qui sont très heureux et qui sont très patients. Moi, j'ai moins cette patience. Et je voulais...
Tu es impatient.
Ben, je voulais essayer des choses nouvelles.
Oui.
Et TVA me proposait de les essayer.
Okay.
Et c'est vraiment ce qui m'a convaincu.
Mais qu'est-ce que TVA te proposait de nouveau que tu voulais essayer que RDI, excuse-moi d'insister là-dessus, oui, ne te proposait pas ou ne t'offrait pas?
J'avais une garantie à TVA d'être en ondes tous les jours.
Donc, RDI, c'était fois pareil, non? On dit, on te voyait tous les
on
jours.
On avait l'impression que j'étais en ondes tous les jours, mais je n'étais pas en ondes tous les jours.
Okay.
Parfois, je pouvais ne pas être en ondes durant 4-5 jours. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que je sois en ondes. C'est simplement qu'il y a une variété de sujets. On couvre tout le Canada. Donc, si, par exemple, cette semaine, ben, les yeux sont tournés vers la Colombie-Britannique, ben, il y a des fortes chances que tu sois moins en ondes ici à Montréal parce qu'il n'y a pas d'enjeu qui mérite autant d'attention. Et TVA, ben, c'est une entreprise qui couvre le Québec. Donc, j'avais cette garantie d'être en ondes tous les jours, de faire du reportage tous les jours et du terrain 5 fois par semaine. C'est dur de dire non à ça. J'avais des collègues qui travaillaient déjà à TVA qui m'avaient dit, écoute, elle dit, si tu veux travailler tous les jours à la course, TVA, tu vas être très heureux. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. Il faut que tu veuilles en donner. Il faut que tu veuilles donner de toi. Puis c'est ce que je fais, puis ça me rend tellement heureux. Il y a des gens, c'est le contraire. Ils aiment avoir des journées qui peuvent les concilier avec un petit peu plus... tu sais, je vais donner un exemple. À TVA, tous les jours, tu te dois de trouver des sujets pour le jour même, pour le lendemain. Ça fait en sorte que moi, je suis toujours en mode alerte. Je cherche constamment des histoires, des témoignages.
On le voit en studio, là, ton téléphone.
Et j'aime ça. Ça me nourrit profondément.
Okay.
À Radio-Canada, on est souvent... et encore une fois, c'est rien contre l'entreprise. On est souvent affecté par des personnes qui font de l'affectation, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu as beau avoir une idée, un sujet, il y a quand même d'autres sujets qui vont prendre le dessus, ouais, sur les tiens. Et tu peux rien contre ça, et c'est normal. On couvre beaucoup plus large.
Comment dire ça? Il y a aussi, quelque part, tu fais ce transfert, puis il y a des gens qui estiment que tu as quitté une maison de presse, une maison de journalisme, où justement l'éthique journalistique, vrai ou pas, l'éthique journalistique est, on va dire quoi, plus sur les rails que l'inverse. Ça, c'est toujours cette impression qu'on a. Je ne te dirais peut-être pas d'y répondre, mais est-ce que les méthodes de travail sont différentes?
Il y a un
dans le sens où le privé, c'est on veut de l'audience, on veut de l'audience, on veut de l'audience. Donc, par moment, on peut, entre guillemets, déraper. Est-ce que c'est une fausse idée?
Il y a un empressement dans les salles de nouvelles privées, contrairement à Radio-Canada, qui fait en sorte qu'il y a un risque de se tromper qui est plus grand. Je vois quand même une certaine... comment dire? Je le constate à TVA. C'était une de mes craintes au départ. Est-ce qu'on aura la même méthode de travail, la même rigueur? Jusqu'ici, je réponds oui. Je vois la même rigueur, mais souvent, moindrement, un collègue fait une erreur une fois, elle va porter ombrage très longtemps à l'entreprise. J'ai beaucoup de collègues à TVA qui étaient autrefois à Radio-Canada. Et j'ai des collègues à Radio-Canada qui étaient autrefois à TVA. Évidemment, à Radio-Canada, il y a énormément de couches de patrons. Donc, une petite décision, des fois, avant d'aller en ondes, peut devoir être approuvée par 3, 4, 5 personnes. Ce qui, selon certains collègues, ben, parfois c'est un peu lourd, c'est un peu long. Évidemment, le risque de se tromper est encore plus petit. À TVA, évidemment, il y a moins de patrons. Le journaliste est appelé à prendre lui-même des grandes décisions et de les assumer avec les conséquences qui viennent avec. Moi, j'assume toutes les conséquences de ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai une information entre les mains et que j'ai ce besoin-là de vouloir la diffuser et qu'elle est fausse, ben c'est pas juste moi qui vais écoper, c'est toute l'entreprise. Donc, je vois certains collègues parfois chercher 2, 3, 4 sources avant de diffuser une information. mais je vois certains collègues de d'autres entreprises, autant à Radio-Canada qu'à la presse, des fois, ben, faire une erreur, glisser une information qui était erronée, on s'excuse, et on ne devrait pas en faire des erreurs, mais on est des êtres humains, puis on en fait, puis... Le fait que les salles de nouvelles sont forcées de réduire leurs employés fait en sorte qu'on est plus appelé à en faire des erreurs.
Tout à fait, il y a une pression.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant.
Voilà, vous écoutez toujours Néo-Québec et mon invité est Adi Yacine, donc, qui est le nouveau chef d'antenne de TVA Weekend le 18h. Voilà, tout le titre, il est là. Adi, est-ce que ça veut dire que c'est ça, c'est le journal de 18h?
Oui. Et le 22h.
Et le 22h, c'est ouais. Ça, parce qu'on écrit 18h, mais c'est 18h et 22h.
Les
donc, toutes les fins de semaine. On a évoqué ça, on a dit que c'était une première, mais je reviens sur l'annonce. Lorsque tu bascules, je dis basculer, lorsque, voilà, tu changes de d'employeur, on annonce plutôt à dit comme, justement, l'expérience, l'homme de terrain, le journaliste de terrain, donc, qui va nous apporter ça à TVA. Mais la première fois qu'on te voit, même pas la première fois, mais ceux qui lisent un peu, on découvre que tu vas être le chef d'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé encore toujours
Quand j'étais à Radio-Canada, il y a un patron qui a évoqué la possibilité de me faire un screen test, qu'on appelle, donc une audition, pour à l'occasion remplacer comme animateur. On m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai répondu oui. Mais ne sachant pas comment je m'en sortirais, j'étais pas allumé ou absolument je voulais pas devenir demain animateur. Quand je suis arrivé à TVA, on m'a proposé de l'essayer. Faisons un screen test, on verra.
Okay.
C'est-à-dire qu'on fait un faux bulletin.
Oui, pour voir un peu
avec
comment...
des collègues et tout le monde en régie, la réalisation. Et on l'a fait, ça a très bien été. L'idée au départ, c'était de faire des remplacements. Mais ça l'a si bien été que le lendemain, un de mes patrons m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit « Je dois te parler. Peux-tu venir à mon bureau? Ferme la porte. » Et là, je me suis dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait un mois que je travaille ici. » Et il m'a dit « Écoute, Adi, j'ai écouté ton screen test et j'aime beaucoup ça. Aimerais-tu animer tout l'automne, la fin de semaine? » Et là, j'ai compris que c'était plus gros que moi. J'ai répondu à mon patron, ah ouais, tu penses que je suis rendu là? Puis il m'a dit, écoute, elle dit, je me trompe très rarement. Et l'entendre me dire, j'ai confiance en toi, ça l'a nourri ce sentiment qui m'habitait, cette crainte de ne pas être à la hauteur. Et je me suis dit, c'est vrai que moi-même, en écoutant mon audition, j'ai aimé ce que je voyais.
Okay.
Je pense que je serais capable de remplir ce mandat-là. Et j'ai dit oui.
Et sans réfléchir, tout de suite ça a été
dans
oui,
le bureau,
go,
j'y vais. J'accepte. Et dès l'instant où j'ai dit oui, j'ai senti que j'étais sur un nuage et que ce qui venait d'arriver, c'était peut-être quelque chose que j'avais profondément enfoui dans moi, mais que je n'osais pas dire. Parce que dire, moi je veux devenir chef d'antenne, des fois je trouve ça un peu prétentieux. Là, de me le faire.
Pourquoi d'ailleurs c'est prétentieux quand on pense que je le dis parce que à une époque. On dit quoi souvent? Jadis, je l'ai dit dans une rencontre et tout. Puis, je sais qu'il y a eu des regards autour de moi. Et là, je parle, c'est à Radio-Canada, c'est à la radio. Puis, je disais, bah oui, je souhaite le faire. Je t'ai recherché ça à l'époque. Puis, on te regarde un peu, mais pourquoi ça paraît prétentieux?
Je me demandais, est-ce que je suis la personne pour faire ça? Donc, m'attribuer moi-même les qualités que devrait avoir un chef d'antenne, je trouvais que c'était un petit peu prétentieux. Avec du recul, aujourd'hui, je réalise que j'ai ces qualités-là. Et je vais encore plus les travailler pour devenir un meilleur chef d'antenne. Moi, je commence à faire ce métier-là. C'est un autre métier complètement. C'est-à-dire qu'un chef d'antenne accompagne les gens dans leur salon. Il y a un gros travail qui se fait en amont avec une équipe qui est incroyable. Mais une fois en onde, t'es seul avec les gens et tout peut arriver. Tout peut arriver. On appelle ça des breaking news, des dernières heures. Il peut y avoir quelqu'un de très connu qui décède. Et là, si on va en émission spéciale et que c'est ton créneau à toi, t'es à l'horaire, mais t'as une responsabilité d'aller en onde avec cette nouvelle-là. Et je n'ai pas la prétention de tout savoir et de tout connaître. Mais depuis que on m'a confié ce poste-là, je m'oblige à tout savoir, à tout connaître. Mm-hmm. Des fois, je tombe sur des noms d'artistes que je ne connais pas, ben je me donne l'obligation de lire sur eux. Parce que je ne sais pas à quel moment cette personne pourrait décéder si elle est plus âgée et qu'on pourrait se retrouver en émission spéciale et que là, je pourrais recevoir des gens qui l'ont côtoyé. Et moi, dans un devoir d'être le meilleur des chefs d'antenne, ben je dois tout savoir.
Tout à fait. Et tu disais tantôt que les salles de nouvelles à travers le Québec, particulièrement du côté de Montréal, sont un peu plus ouvertes, ou du moins il y a une réelle volonté d'inclure de la diversité. Ça fait quelques semaines quand même que tu es là. Il y a des regards maintenant sur toi, on l'a un peu évoqué. Tu le vois quand tu marches dans la rue, est-ce que le regard des gens a changé? Est-ce que les jeunes t'apostrophent un peu plus en te demandant par exemple comment tu as fait?
Depuis que je fais la télé, je me fais beaucoup arrêter dans la rue mm-hmm. par des personnes d'origine arabe.
Mm-hmm. Parce qu'il y en a peu à la télé.
Exactement. Et j'en suis très heureux mm-hmm. et j'en suis très fier et je m'arrête pour leur parler. Et souvent, ils me posent toutes sortes de questions sur autant mes origines que sur mon parcours. Mm-hmm. Et je réponds à ces gens-là avec autant de fierté que eux en ont. Et souvent, ils me l'expriment, cette fierté-là. Puis moi, ça me touche. Puis je m'habitue jamais à ça. Quand je rencontre des gens qui sont d'origine marocaine et qui me posent la question de quelle origine tu es, est-ce que ça a toujours été un but pour toi de devenir journaliste, puis qu'ils me disent qu'ils sont fiers de moi, je me dis, mais voyons donc, c'est quelle joie, quel bonheur de pouvoir recevoir autant d'amour puis de reconnaissance de la part de personnes que je ne connais pas. Mmh. Ce regard-là, oui, il était présent à Radio-Canada. Il est encore plus fort depuis que je suis à TVA. Il y a des codes d'écoute qui sont plus élevés. Il y a un public qui est plus large. Mmh. Je m'y préparais. Là, je le vois de plus en plus. Moi, si ces personnes m'écoutent et qui sont contents de s'identifier à moi, merci la vie, tant mieux. Parce que moi, quand j'écoutais des humoristes arabes, je m'identifiais beaucoup plus à eux parce que je leur ressemblais. J'avais certains traits qui étaient semblables. Comme il y a des personnes qui pourraient ne pas s'identifier à moi non plus. J'ai pas la prétention de... T'sais, je suis pas le Il y a des gens différents dans la communauté arabe. Mmh. Moi, je suis...
Mais tu es quelqu'un vers lequel les gens vont pouvoir s'identifier aussi maintenant. Surtout les plus jeunes vont pouvoir s'identifier.
Il y a quelques mois, mmh. j'étais dans la rue pour Radio-Canada. Il y a une mère qui vient me voir avec son fils et elle me dit « Mon fils aimerait devenir journaliste. »
OK.
Et moi, j'étais sur le point d'aller en onde. On était sur la rue Jean Talon. Le Maroc venait de gagner son match. Il se rapprochait de la Coupe du Monde. Je devais aller en onde et j'aurais tellement voulu lui dire à la madame, ben, laissez-moi votre numéro de téléphone, votre fils pourrait venir faire un tour au bureau, je vais lui présenter des collègues. Je l'ai perdu de vue. Il y avait tellement de gens dans la rue, je n'ai jamais retrouvé cette mère et son petit garçon qui devait avoir 13, 14, 15 ans. Mais j'aurais aimé pouvoir dire à ce jeune homme, écoute, c'est possible. Il y a moyen d'aspirer à ces postes-là. Je l'ai fait. Et je crois que tu pourrais aussi le faire à ton tour. Donc, ce sentiment... Oui, je me sens regardé par cette communauté. Je dis cette communauté, pas ma communauté, parce que il y a tellement de gens dans cette communauté, donc je peux pas me l'approprier. Mais même par ces communautés, parce que pour certaines personnes, on me dit des fois, « Ah, je vous pensais marocain.
Oui.
Ah, je vous pensais algérien. »
C'est ça.
Donc, c'est toutes sortes de personnes qui s'identifient à moi. J'en suis très heureux et je prends évidemment ça avec beaucoup d'honneur puis de reconnaissance. Puis ce travail, je le fais pour le public malgré tout. Je le fais pas pour une communauté en particulier.
Papa, maman, puis les frères sont, j'imagine, très fiers aussi. tu as commencé l'entrevue, on va finir avec ça, en disant que tu touchais à beaucoup de choses, tu étais impatient de découvrir autre chose. 10 ans, lorsque je vais recevoir Hadi Yacine, ce sera avec quelle casquette? Son rêve, ce serait que je le reçoive avec quelle casquette?
Moi, je pense qu'on peut rester reporter toute une vie sur le terrain et être le meilleur reporter terrain possible, comme on peut rester chef d'antenne toute une vie. Moi, il y a une partie de moi, des fois, qui a envie de donner au suivant, de léguer ce qu'on m'a légué. C'est-à-dire, l'enseignement, pour moi, c'est la meilleure façon de faire de certains nouveaux collègues des meilleurs journalistes. Moi, à Radio-Canada, j'ai côtoyé des journalistes qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont donné des trucs à gauche, à droite, des rédacteurs en chef qui m'ont aussi aidé. Dans 10 ans, c'est loin encore, mais j'écarte pas l'idée d'un jour de devenir patron d'une salle de nouvelles. Mm-hmm. C'est-à-dire être rédacteur en chef. Mm-hmm. ne serait-ce que pour dire à un collègue et me sentir confortable de le faire. Ah, écoute, ton texte, on pourrait plus le travailler comme ça. On pourrait commencer ton reportage de cette façon-là. Et je le fais déjà en ce moment des fois. Je me garde une petite gêne des fois parce que je me sens pas tout le temps bien placé pour le faire. Puis je veux pas que ça crée un certain froid avec un collègue. Mais moi, j'aimerais bien un jour être dans un poste de cadre, dans une entreprise de nouvelles. Pour ici, c'est pas un poste de cadre, un poste qui me permettrait de léguer ce que moi on m'a donné. Donc oui, j'aimerais être chef d'antenne des années encore, mais moi je contrôle rien là. On m'a donné ce poste-là pour l'instant. Merci à mes patrons de me faire confiance. Merci au public pour leur feedback qui est très positif et de me suivre. Mais si demain on me l'enlève, ben je ne pourrais pas chialer. On m'a donné quelque chose pour une période de temps, j'ai atteint un but, merci la vie. Si demain, c'est un autre collègue qui a l'opportunité de le faire, j'en serais très heureux pour lui, honnêtement.
Et moi, je dis au nom de mon nom personnel, au nom de beaucoup, mais merci aussi d'avoir accepté l'invitation de Néo-Québec sur CIBL pour en parler, pour parler de ce parcours-là. Et puis, nous, on est toujours fiers de voir comme ça des gens aller parce que on sait que, voilà, ça ouvre la porte à d'autres. Ça concrétise le rêve que certains peuvent avoir d'accéder à ce métier. On le sait, la télé est très attirante. Il y a très peu de place pour beaucoup de monde, mais ça fait du bien de voir que, mais voilà, il y a quelqu'un qui a ouvert une porte, qui on m'a dit de ne plus dire le premier. Ça fait toujours. Mais c'est le cas. Comme on dit, le reste c'est de l'histoire. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Vraiment, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Et puis, on va regarder les journaux.
Merci à vous deux.
Merci. Mon nom est Cyril Equala.